Bruyant de lecture. Bruyant de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou par Catherine. Et aujourd'hui, ce sera Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour. Oui, nous excusons Catherine qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté.
De sa volonté,
tout à fait. On lui dit bonjour de loin. Bonjour Catherine.
Voilà. Et comme le 8 mars correspond à la Journée internationale des droits de la femme.
Exactement.
Tu as choisi
et que
de
nous sommes au mois de mars là. Hein,
Hervé, un livre.
J'ai choisi de vous lire une biographie de Paula MacLean, qui s'appelle L'Aviatrice. L'Aviatrice, c'est la vie d'une certaine Beryl Markham, qui était une femme exceptionnelle d'origine britannique, ayant vécu au Kenya dans la première moitié du XXe siècle. Et cette femme, donc, est devenue aviatrice et elle a été la première à accomplir en solitaire un vol transatlantique de l'Angleterre jusqu'à New York en 1936. C'était vraiment une grande dame.
C'était exceptionnel à l'époque, effectivement. Tu nous en dis un peu plus sur cette femme ?
Ah oui, très volontiers. C'est une femme comme... C'était une femme exceptionnelle et donc qui a eu une vie qui n'est pas la nôtre. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte du début du XXe. Elle a été mariée plusieurs fois. Elle a eu plusieurs amants. Elle était la fille d'un éleveur de chevaux riche. Hein, on est dans un milieu très riche, vivant au Kenya donc. Et elle avait pour amie une certaine Karen Blixen. Et ça vous dit quelque chose ?
Que l'on connaît fort bien.
Tout à fait, Karen Blixen, romancière, qui avait écrit La ferme africaine, dont on a tiré un film.
Out of Africa.
Exactement. Et l'amant de Beryl Markham s'appelait Dennis, donc Finch Hatton, et il était joué par...
Robert Redford.
Exactement.
Très bien. Eh bien, nous allons découvrir la vie de cette aviatrice.
« 4 septembre 1936, Abingdon, Angleterre. Mon Végagoule bleu, aux ailes d'argent, est le plus beau de tous les oiseaux des cieux, et c'est moi qui le fais voler. Messenger, car tel est son nom, a été conçu et construit avec beaucoup de soin et de savoir-faire, dans le but d'accomplir l'impossible, la traversée d'un océan en un seul vol téméraire, 5800 km de houle noire et de néant, et de m'emmener à son bord. C'est au crépuscule que je grimpe dans le cockpit. Des orages pèsent depuis des jours sur l'aérodrome et le peu de lumière qui filtre est parcimonieuse et brouillée. La pluie tambourine sur les ailes de l'avion et le vent souffle de travers. Pourtant, on m'assure que je n'aurai pas meilleur temps de tout le mois. À vrai dire, la météo est moins un problème pour moi que le poids. Le Végagoule est équipé d'un train d'atterrissage spécial capable de supporter la charge additionnelle d'huile et de carburant. Des réservoirs ont été montés sous la voilure et dans la cabine où ils entourent mon siège comme des murs. Ils sont équipés de robinets que je peux atteindre de deux doigts pour passer de l'un à l'autre à mi-parcours. Il faudra que j'attende que l'un se vide complètement avant de le fermer et d'ouvrir l'autre afin d'éviter une poche d'air dans le circuit. Le moteur s'arrêtera sans doute pendant quelques instants, mais repartira. Je dois compter là-dessus. Je dois compter sur pas mal d'autres choses aussi. Le tarmac est couvert de flaques, aussi grandes que des petits lacs, à la surface blanche d'écume. Il souffle un vent impétueux, contraire à ma route, sous une couche de nuages menaçants. Ils sont venus, quelques journalistes, quelques amis, assister au décollage, mais l'humeur est sombre, sans aucun doute. Tous ceux qui ont conscience de la véritable nature de ce que je m'apprête à entreprendre essaient de me décourager. « Pas aujourd'hui, disent-ils, pas cette année. Le record à battre n'aura pas changé lorsque le beau temps sera de retour, sauf qu'au point où j'en suis, pas question de reculer. Je range le petit panier de victuailles, glisse la flasque de brandy dans la poche latérale de ma combinaison de vol et m'insère tant bien que mal dans le cockpit comme dans une seconde peau. J'ai avec moi une montre prêtée par Jim Mollison, le seul pilote qui ait tenté la même liaison aérienne et s'en soit sorti vivant. J'ai une carte sur laquelle est dessinée ma route au-dessus de l'Atlantique, d'Abingdon à New York. Chaque centimètre d'eau glacée à survoler y est indiqué. Mais pas le vide, ni la solitude, ni la peur. Ce sont pourtant là des choses tout aussi tangibles, car il faudra bien que je passe au travers, tout droit à travers les turbulences et les trous d'air nauséeux, pour la simple raison qu'on ne peut pas tracer une route qui contourne tout ce qui nous effraie. Vous ne pouvez pas vous dérober à une prairie de vous-même, et heureusement. Il m'arrive de penser que seuls les défis que nous relevons nous révèlent à nous-mêmes et nous changent aussi. 1,5 km de piste et 950 kg de carburant, de noirs escadrons de nuages convergeant de tous les coins du ciel et la lumière qui baisse de minute en minute. Je ne peux pas traverser tout ça et rester la même. Je maintiens le cap et tiens le manche fermement. Je passe en brinque-ballant bruyamment devant les spectateurs et leurs appareils photos, puis devant une série de marqueurs qui mènent au drapeau rouge, le point de non-retour. J'ai 1500 mètres de piste et pas un centimètre de plus. Il n'y arrivera peut-être pas, évidemment. Après tous ces préparatifs, le soin, le travail, les efforts pour rassembler mon courage, je me dis qu'il est possible que le goule reste collé au sol, plus éléphant que papillon, et que je vais échouer avant même d'avoir commencé. Mais d'abord, je vais donner mon maximum. Au bout de 200 mètres, la queue de l'avion se soulève, pesamment. Je pousse les gaz, luttant contre la gravité, cette force effrayante, et perçois plus que je ne vois le drapeau rouge qui se rapproche. Les gouvernes prennent vie et le nez se lève. Voilà l'avion en l'air, droit comme une flèche, papillon finalement. Nous grimpons dans la lumière mourante avec la pluie qui asperge l'échiquier vert et gris de Swindon. Devant moi s'étend la mer d'Irlande, dont les eaux sombres se disposent à me happer le cœur. Le scintillement, ça, c'est Cork. La forme bossue et noire là-bas, le Labrador. J'écoute les sanglots continus du moteur assidu au travail pour lequel il a été construit. Mon nez fait des bonds. Je fonce à travers les paquets de pluie, grimpant à pleine puissance malgré les secousses imprimées par la tourmente. Je suis maîtresse de mes réflexes ainsi que de ma machine. Mais au-delà, il y a une chose plus mystérieuse et essentielle, mon ambition depuis toujours d'écrire mon nom dans le ciel au moyen de cette hélice, de ces ailes tendues de toile laquée pendant 36 heures dans le noir. C'était il y a 2 ans. Le défi m'avait été lancé dans le brouhaha d'une salle de restaurant entre les murs lambrissés de cèdre d'un restaurant. Dans mon assiette, j'avais un tourne-dos au poivre, des asperges aussi fines que des auriculaires et dans nos verres à tous un vin de Bordeaux à la robe grenat. La petite phrase avait été lancée au dessert par M. Carberry. Personne, ni homme ni femme, n'a encore traversé l'Atlantique à partir d'ici, d'est en ouest. Le sens le plus périlleux. Qu'en dites-vous, Beryl ? 2 ans plus tôt, Mollison avait manqué un grand saut analogue. Nul n'imaginait qu'un avion puisse réussir pareil exploit. Mais Jean-Claude, qui était riche à ne savoir que faire de son argent, avait l'âme d'un Magellan ou d'un Perry. Et voilà qu'il avait devant lui l'immensité sans bornes d'un océan, des milliers et des milliers de kilomètres d'air glacé, vierge, bref, une nouvelle frontière et aucun avion. Voulez-vous tenter le coup ? Ses yeux étaient 2 agates. J'ai soutenu leur réclat en regrettant que son épouse, Maïa, ne soit pas des nôtres, ravissante, toute de soie blanche, vêtue, coiffure crantée à la perfection. Hélas, elle était morte quelques années auparavant au cours d'une simple leçon de pilotage dans les environs de Nairobi, un jour sans vent ni surprise côté météo. La première tragédie aéronautique à nous avoir frappés de près, mais non la dernière. Ils étaient nombreux, ces fantômes bien-aimés, dont le scintillement nous parvenait à des profondeurs du passé et dansait sur les bords de nos verres à vin, nous rappelant combien ils avaient été audacieux, combien magnifiques. Inutile de me rafraîchir la mémoire. Je ne les avais pas oubliés, et je ne sais comment, à l'instant où j'ai croisé ses yeux, son regard, j'ai eu l'envie de les approcher encore plus près de moi. « Oui, lui ai-je répondu, et il a répété sa question. Les dernières lueurs du couchant ne tardent pas à se dissoudre aux confins effrangés du ciel, et il n'y a plus que la pluie et l'odeur du kérosène. Je vole à 610 mètres au-dessus de la mer, une altitude que j'ai l'intention de maintenir pendant les 2 jours qui viennent. » La masse nuageuse a avalé la lune et les étoiles. Le noir est si total que je suis bien obligé de me fier uniquement à mes instruments, battant mes paupières pour chasser de mes yeux la fatigue qui m'empêche de lire les cadrans mal éclairés. N'ayant pas de radio, je trouve apaisant le ronronnement et la puissance de mon moteur et la force du vent de 40 nœuds contre le nez de l'appareil. Les clapotis de carburant dans les réservoirs me bercent aussi. Jusqu'au moment où, 4 heures après le départ, mon moteur commence à avoir dératé. Il crache et siffle, puis s'arrête. Silence. L'aiguille de l'altimètre tourbillonne à une vitesse vertigineuse. Je suis dans une sorte de transe, mais mes mains, elles, savent ce qu'elles doivent faire, même si mon esprit est engourdi. Il suffit que je tourne le robinet pour engager le réservoir suivant. La machine repartira. Forcément. J'avance une main dont je m'efforce de calmer les tremblements et mes doigts cherchent l'inverseur en argent. Il se produit un clic rassurant, mais le moteur reste muet. Le Vegagoule continue à perdre de l'altitude. 335 mètres, 240 mètres, plus bas encore. Les nuages s'écartent brièvement pour me laisser voir les scintillations terrifiantes d'une eau écumante. Les vagues se soulèvent vers moi. Le ciel insondable me pousse vers elles. Je tripote de nouveau le robinet en m'efforçant de ne pas céder à la panique. Je m'étais préparé à tout. Mais y a-t-il une seule personne vraiment prête à mourir? Maya l'était-elle quand elle a vu la terre voler à sa rencontre? Dennis l'était-il en un séjour abominable au-dessus de Voy? Un éclair soudain électrise l'air autour de mon aile gauche qui s'illumine comme Noël et une sensation de déjà-vu m'étreint, comme si je m'étais déjà souvent trouvé dans cette situation. Peut-être ai-je toujours été précipité dans ce violent plongeon tête la première vers moi-même. En contrebas, les flots irrités attendent sans pitié et pourtant c'est vers le Kenya que voguent mes pensées. Ma vallée du Rift, le mont Logono et les bords déchiquetés du cratère du Mangegai, le lac Nakuru et le pâle flamboiement du plumage des flamants roses, les hauts et bas escarpements, Kepkopé et Molo, Njoro et la pelouse miroitante du Mutukai Club. C'est là-bas que je vais. Même si je sais que c'est impossible, à croire que l'hélice découpe l'épaisseur du temps, tout à la fois me propulsant vers l'arrière et vers l'avant, éternellement, ouvrant vers moi le chemin de la liberté. « Oh !» me dis-je en chutant dans la nuit, aveugle à tout le reste, « je rentre chez moi. »
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground.
Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today.
Pour devenir une femme exceptionnelle, encore faut-il vivre une enfance exceptionnelle, avec tous les ingrédients d'une vie exaltante. Et tout d'abord, Beryl McCam, eh bien, elle a eu un papa ruiné. Quelques semaines plus tard, mon père et moi descendîmes accueillir le train de Nairobi à la gare de Kampi, Yamoto, en bas de notre colline. La locomotive s'immobilisa en soufflant bruyamment un petit dragon de retour de la guerre. Sous un panache de fumée qui obscurcissait le bleu uniforme du ciel, une demi-douzaine d'hommes s'échinaient à installer une rampe en bois devant et des wagons noirs de suie. Six de nos chevaux rentraient victorieux de l'hippodrome de Nairobi. Parmi eux, il y avait Cam, Barwan et mon Pégase. Cam l'avait emporté, la coupe et un prix de 100 livres sterling, mais alors que nous piétinions sur le petit quai de la gare en attendant qu'Emma passe nous prendre avec la Hudson, mon père refusait de parler de nos trophées. Il voulait savoir ce que je pensais de Joke. « Il te plaît ?» me demanda-t-il en levant son visage vers la colline dont la forme se découpait à contre-jour. « Je le trouve sympathique. On dirait que sa ferme va bien marcher. » Il se mordilla le coin de la bouche avant d'acquiescer. « Tu peux compter sur lui pour ça. Il a des sentiments pour toi. Comment ?» m'exclamai-je en me tournant pour lui faire face. « Nous venons tout juste de faire connaissance. » il eut un petit sourire ironique. C'est le genre de considération qui n'a jamais empêché un mariage. « Mais pourquoi tout le monde est-il si pressé de me trouver un mari ? Je suis trop jeune !»« Pas vraiment. Beaucoup de jeunes filles de ton âge rêvent d'avoir une maison et des enfants. Il faudra bien qu'un homme s'occupe de toi un jour, non ? Pourquoi ? On est très bien comme ça !» À cet instant, le klaxon bêlant de la Hudson retentit. L'auto descendit la pente de la colline et roula vers nous en crachotant dans un bruit de ferraille. Emma au volant rebondissait sur le siège de cuir. Elle se gara près de nous, mais laissa tourner le moteur. « Où est ton chapeau, Beryl ? Tu vas attraper des taches de rousseur avec ce soleil. » Je ne comprenais pas pourquoi nos exploits à Nairobi paraissaient trouver aussi peu d'écho. Le soir, à table, mon père demeura silencieux et fermé. Emma ne trouva rien de mieux que de s'excuser pour la soupe. Un pâle bouillon où des bouts de turbo rivalisaient avec des clés de pommes de terre et des rondelles de poireaux. « Ce poisson n'est pas bon. Qu'en penses-tu, Charles ?» Elle repoussa son assiette à soupe et appelait à Komoto. Il surgit dans sa veste blanche, coiffée de son fez en velours. Emma le pria de remporter le tout à la cuisine. « Et on va manger quoi ? Du pain et du beurre ?» lança mon père en levant la main pour arrêter Komoto dans son élan. « Laisse !» Emma, parce que maintenant que je fais compte à tes yeux, c'est un peu fort. Pris entre deux feux, Komoto se figea. Que se passe-t-il enfin ? Me décidai-je enfin à demander. Mon père prit un air peiné, il pria Komoto de retourner à la cuisine. Le boy s'éclipsa, soulagé, et je regrettais de ne pouvoir le suivre. Je n'avais pas envie d'entendre la suite. C'est cette satanée roupie, m'informa ensuite mon père en se tordant les mains. La semaine dernière, je devais 5000 roupies, et cette semaine, c'est 7500 roupies, sans compter les 800 d'intérêt sur la totalité. Cette fois-ci, je ne m'en sortirai pas. Il a accepté un poste d'entraîneur au Cap, énonça Emma d'un ton glacial. La ferme, c'est fini. Quoi ? Le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'ai parié, j'ai perdu, Beryl. Le métier de fermier est risqué, c'est ainsi. « Et le cap, ça n'est pas risqué ? » dis-je incrédule. « Ils aiment les chevaux là-bas. Je repartirai de zéro. Le changement me portera peut-être chance. »« Chance !» répétai-je d'une voix blanche. Dans ma hutte, cette nuit-là, je baissai ma lampe tempête et restai allongé sur mon lit trop anéanti pour bouger. Les ombres s'allongeaient sur les murs et soupiraient au-dessus de moi. Au montant du baldaquin étaient toujours suspendus des colliers de perles de toutes sortes et des bourses de cuir pleines de délicats os d'animaux. J'étais saisi par un vertige à l'idée du gouffre séparant l'image que j'avais de notre vie et sa réalité. Notre écurie était pourtant parfaitement gérée. 80 chevaux hors pair qui avaient valu à mon père sa formidable réputation et une série de trophées mérités. Je pensais à lui tout seul dans son bureau avec sa bouteille de scotch. Demain matin, la cloche allait sonner. Les hommes et les bêtes allaient se lever comme d'habitude. La minoterie commencerait à tourner. Les chevaux galoperaient sur la piste du manège où piétinerait la litière de leur boxe. Mais plus rien n'aurait de substance. Notre ferme était devenue une ferme fantôme. Beryl Markham a eu plusieurs mariages malheureux, et ce, dès son plus jeune âge. Il faut dire que dans ce milieu aristocratique et richissime, très vieille Angleterre, hein, c'est la sensation que l'on a, les jeunes filles devaient se marier jeunes avec d'autres aristocrates, souvent plus âgés qu'eux, d'ailleurs, afin de garder leur fortune. À Bombay, l'air est saturé d'odeurs d'épices et du son grinçant des sitars sous les doigts des musiciens de rue. Des rangées de petites maisons blanches, maintenant clos, en plein jour leur volet à la peinture écaillée. Les fenêtres se rouvraient à la tombée de la nuit quand le ciel se bariolait de rouge et de violet. Nous logions chez l'oncle et la tante de Joke, dans leur propriété au pied du quartier résidentiel de Malabar Hill. Les parents de Joke et deux de ses quatre frères étaient là, eux aussi, curieux de me rencontrer. Moi aussi, j'étais curieuse de faire leur connaissance, cette nouvelle famille que j'avais gagnée comme on gagne à la loterie. Pendant le voyage, Joke m'avait raconté dans quelles circonstances les siens avaient migré d'Édimbourg aux Indes quand il était petit garçon. Mais j'avais du mal à me rappeler les détails des achats immobiliers et autres associations d'affaires en les regardant, ces Écossais rougeaux aux pommettes saillantes dans cette brume marée humaine indienne toute de douceur. La mère de Joke était la plus rose de la bande, un flamant rose drapé de soieries colorées. Son impeccable chignon châtain était envahi de cheveux d'un blanc de neige. Le père de Joke, le docteur William, une version plus âgée de son fils, avait de grandes mains fortes et des yeux très bleus et très vifs, surtout quand il m'adressait un clin d'œil pour me mettre à l'aise pendant que son épouse me bombardait de questions qui n'en étaient pas. « Vous êtes vraiment grande, n'est-ce pas ? » répétait-elle. « Anormalement grande, n'est-ce pas, Will ? » ?»« Je n'irai pas jusqu'à parler d'anormalité, ma chérie. » À cause de son accent écossais qui accentuait la fin des phrases, je m'attendais toujours à ce qu'il ajoute quelque chose. Mais non. Joke me tapota nerveusement le genou. « Ça veut dire qu'elle est en bonne santé, mère. Elle n'en a tout de même pas manqué de soleil, c'est certain. » Plus tard, alors que Joke et moi étions tous les deux seuls dans notre chambre pour nous préparer avant de descendre dîner, je me regardais dans le miroir en pied. Je n'avais pas l'habitude de porter des robes et des bas, ni ces escarpins à lanières et aux talons à la mode cette année-là. J'étais incapable d'aligner la couture de mes bas. Et mon linge de corps, acheté à Nairobi, suivant les instructions d'Emma, me pinçait à la taille et aux aisselles. J'avais tout simplement l'impression de commettre une imposture. « Ne t'inquiète pas, me dit Joke, assis au bord du lit, occupé à attacher les élastiques de ses bretelles. Tu es très bien. » Je me penchai en arrière pour triturer la couture de mes bas. « Ta mère ne m'aime pas. Elle n'a pas envie de me perdre, c'est tout. Tu sais comment sont les mères. » Il avait parlé à la légère, mais ses mots me blessèrent. Comment pouvais-je savoir ? Elle me méprise, ne sois pas sotte, tu es mon épouse. Il se leva et me prit la main, qu'il serra tendrement. Mais dès qu'il me lâcha, ses paroles m'accablèrent, comme si j'étais assez vieille pour être l'épouse de quiconque, comme si j'avais assez d'expérience pour avoir débrouillé le pourquoi et le comment des choses de la vie. Je ne savais pas non plus de quelle manière je pourrais lui faire comprendre mon état d'esprit. J'avais peur des promesses que je lui avais faites. La nuit dernière, allongée auprès de lui dans le lit, je m'étais sentie tellement seule et engourdie que j'avais eu l'impression qu'une partie de moi était morte. « S'il te plaît, un baiser, » dit-il. Je m'appuyai contre lui et tentai de lui rendre son baiser, mais je n'éprouvais rien. Pour moi, notre couple ne représentait rien. Je n'avais pas l'habitude du bord de mer, de cet air moite et salé qui collait à la peau et me donnait perpétuellement envie de prendre un bain. J'étais beaucoup plus à l'aise avec la poussière. L'humidité envahissante se coulait à l'intérieur des murs et faisait gonfler le bois des fenêtres. Des moisissures noires travelaient les murs des bâtiments comme une peau de vieillard. « C'est injuste, » dis-je à Joke. « Bombay se noie alors que chez nous, on serait prêt à tuer pour un petit peu d'eau. » Ce n'est pas comme si les Indes avaient volé la pluie à Njoro. Et puis nous sommes ici, c'est comme ça. Essaie d'en profiter. Au début, Joke paraissait ravi de jouer les guides, fier de me montrer les marchés multicolores embaumant le curry et le chutney aux oignons. Les joueurs de sitar enturbanés. Les terrains de polo et l'hippodrome si somptueux et bien tenus que la pelouse miroitante faisait honte à celle de Nairobi. Je ne lâchais pas sa main et je l'écoutais, préférant ne pas penser aux ennuis à la maison. Après tout, nous étions de jeunes mariés. Seulement le soir, rien n'allait plus. Nous étions mari et femme depuis plusieurs semaines, mais je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où nous avions fait l'amour. La première fois, c'était sur le bateau. J'avais eu du mal de mer pendant pratiquement tout le voyage, surtout dans le golfe d'Aden, quand nous nous étions écartés de la côte pour voguer vers le large et la mer d'Arabie. L'horizon se balançait, s'abaissait, remontait, quand j'avais la force de le regarder. Avant que la nausée ne s'empare de moi, nous avions réussi à avoir un rapport sur mon étroite couchette, mais cela avait été un tel méli-mélo de coudes, de genoux et de mentons se heurtant dans la bataille que cela m'avait paru avoir fini avant même d'avoir commencé. Après, il m'avait embrassé sur la joue en me disant oh, « c'était merveilleux, ma chérie ». Puis, il était descendu à reculons de ma couchette pour se glisser dans la sienne à l'étage du bas, me laissant aussi perdue et confuse que lors de notre nuit de noces.
Tu mettais du parfum pour plaire, pour taire les soupçons malsains, éternel, terre éteint la lumière. J'entends ton chant, toutes tes notes bleues déguisent mes yeux, tu flirtes avec les deux.
On l'a compris, Beryl Markham est beaucoup plus à l'aise sur un cheval dans la poussière du Kenya que vêtu d'une robe longue lors d'un cocktail dans le grand monde. Et ceci que ce soit en Afrique ou
aux Indes,
comme on l'était tout à l'heure. Mais en même temps, la vie à laquelle elle aspirait n'est pas exempte de dangers. Dangers qui parcourront son adolescence, annonciateurs de la future dame qu'elle deviendra plus tard. Et je vous ai sélectionné une scène pas piquer des hannetons. Je préviens les auditeurs, on ne dit pas Denis, mais Denis. C'est ça, Dominique, hein?
Denis.
Denis. L'après-midi où j'avais rendez-vous avec Denis, il se mit soudain à pleuvoir des cordes interminablement. Ruta se campa devant le rideau de pluie où qui barrait la porte de l'écurie. Tu restes de... alors, Msabu ? Il connaissait mes intentions, je ne lui cachais rien. Non, mais je vais seulement retarder mon départ. Tu désapprouves mes relations avec Denis, je le sais. Il haussa les épaules, puis récita dans un soupir un proverbe swahili. Qui peut comprendre les femmes et le ciel ? Je l'aime, vois-tu, Ruta ? Même tout bas, je ne m'étais jamais permis de l'admettre. Ses yeux noirs d'encre brillèrent mystérieusement. Qu'est-ce que tu as à faire de mon approbation ? Tu iras le retrouver de toute façon. Tu as raison. Je passais la journée à regarder les trombes d'eau changer la terre en boue rouge creusée de milliers de ruisseaux. Dès que je vis pointer une éclaircie, des nuages moins noirs, un rayon de soleil, je m'empressais de sceller Pégase. Solio était à l'autre bout des Aberdères, à 60 km à l'est. Par beau temps, j'aurais contourné la montagne par le nord pour ménager Pégase. Mais il était déjà tard et je me dis qu'il serait plus sage de prendre par l'étroit et sinueux sentier de Crète. Me trouver à cheval dans la montagne au milieu de la nuit ne me faisait pas peur. J'avais déjà voyagé dans ces conditions et pour des raisons qui ne tenaient moins à cœur, j'avais confiance en Pégase. Il avait le pied aussi sûr qu'un chamois. Au début, nous fîmes bonne route. L'air pur caressait ma peau. L'étroit chemin grimpait gentiment, tandis qu'en contrebas, les lumières de la petite ville éclaboussaient çà et là les ténèbres. J'imaginais les marchands au fond de leurs lits, leurs enfants dormant à poings fermés, à même le sol ou sur des nattes en jonc. Il était inconcevable qu'un jour je coule des jours aussi tranquilles avec Denis. Ni lui ni moi n'étions faits pour une existence routinière, le train-train de la vie conjugale. Il y avait seulement cette nuit et la suivante, des baisers pirates, un bonheur délicieux et terrifiant. Pour une heure de plus dans ses bras, j'étais capable de tout. Nous avions déjà parcouru la moitié du chemin quand je sentis l'odeur de l'eau. Bientôt, j'entendis aussi le chant de la rivière. Pégase s'approcha prudemment à la faible clarté de la lune. Je devinais les tourbillons du courant, ces ombres qui se tordaient dans tous les sens en tournoyant. La berge était pentue et rase. Je ne pouvais pas faire descendre Pégase là-dedans, surtout qu'il m'était impossible d'évaluer la profondeur. Pourrait-on passer à gué ? Ou mon cheval serait-il obligé de nager ? Aussi décidai-je de continuer à progresser vers le nord, en longeant le cours d'eau en quête d'un passage à gué. Je ne tardai pas à tourner bride et à redescendre vers le sud. Finalement, j'avisai ce qui ressemblait à un pont suspendu. En me rapprochant, je vis qu'il s'agissait d'une de ces passerelles primitives en tiges de bambou attachées ensemble par des cordes épaisses que les tribus locales construisent pour leur propre usage. Était-elle assez robuste pour supporter le poids de Pégase ? Elle devait permettre le passage de petits chariots et de bœufs. Je pouvais sans doute y aller. Je descendis de cheval et, en le tenant par la bride, je le précédais sur le talus qu'il nous fallait descendre. Ses sabots dérapaient sur les cailloux. Il renacla de surprise. La passerelle semblait solide, mais le tablier de cordage et de bambou se mit à osciller sous nos pas. J'avançais, l'estomac noué par un vague mal de mer. Je savais que Pégase n'était guère plus rassuré. À une dizaine de mètres en contrebas, le torrent grondait. Une écume blanche gambadant au clair de lune comme un animal. L'eau noire giclait, argentée sur les bords. Lorsque l'autre extrémité de la passerelle surgit dans l'obscurité, je ressentis un intense soulagement. J'étais justement en train de me dire que j'avais pris un trop gros risque, mais à présent je distinguais le talus pâle de la berge. Nous y étions presque. Nous allions retrouver la terre ferme. Les cordes crièrent. S'ensuivit un bruit de scie qui grince, puis de quelque chose qui se déchire. Le bambou se mit à craquer. Je vis Pégase tomber. En entendant son rugissement, je crus que je l'avais perdu. Puis, la passerelle se stabilisa et je compris alors que ses jambes étaient passées à travers la trame. Il s'était enfoncé jusqu'au ventre et à la poitrine, soutenu par les lattes de bambou. De la rivière torrentielle s'élevait vers nous un vacarme assourdissant. J'étais sans doute moi aussi sur le point de chuter, mais je ne pensais qu'à Pégase et au danger auquel je l'avais exposé. Les pur-sang sont des créatures nerveuses et délicates, mais Pégase avait toujours su garder la tête froide. Un cheval courageux et calme, même là, qui me regardait en sillant de ses grands yeux dans le noir, convaincu que j'allais trouver un moyen de le tirer de ce mauvais pas. Parce qu'il croyait en moi, je me ressaisis et réfléchis. Il y avait une longe attachée à la selle. Elle serait peut-être assez longue à condition de l'arrimer solidement quelque part. J'avançais sur la passerelle avec la sensation de marcher sur un matelas à ressorts. Une fois sur la berge, je cherchais un acacia adéquat, c'est-à-dire un peu tordu et orienté dans le bon sens. Je trouvais un arbre un peu jeune, mais je n'avais pas le choix. Je retournai auprès de Pégase qui m'attendait avec une patience digne d'un destrier dans un récit épique. Je fis un double nœud coulant que je lui passai autour de la tête à la manière d'un licol. La longe avait intérêt à ne pas lâcher. Mon idée était de le garder attaché jusqu'au petit matin. Je ne voyais quasiment pas comment on pourrait le sortir de là sans l'aide d'un levier quelconque. Ça aurait été trop périlleux d'essayer toute seule. Je risquais de le perdre, et ça, il n'en était pas question. Une fois le licol de fortune en place, l'autre extrémité de la longe assurée grâce à l'acacia, je m'appuyai contre son encolure pour souffler un peu. « Ça va faire une bonne histoire à raconter, lui dis-je. » Il scia de nouveau, ses prunelles veloutées par sa confiance sans borne en moi. Je m'enveloppai sur la couverture, en laine, toujours pressée contre lui, pour me tenir chaud. Mais alors que je commençais à somnoler, un fracas dans les buissons. Un grondement sourd me fit me redresser vivement. Une horde d'éléphants ayant senti notre odeur venait voir ce qui se passait. À présent, ils arpentaient la berge, certains tournant sur eux-mêmes, terrorisant Pégase. Qui me disait qu'il n'allait pas piétiner l'amorce de la passerelle et la réduire en miettes, nous précipitant dans le vide? À l'instant où je me levais de toute ma hauteur, Pégase se mit à se débattre pour tenter de se dégager. Il ébaucha un mouvement de balancier en portant le poids de son corps d'avant en arrière. J'étais transi de peur, le voyant déjà passant au travers. Mais il parvint à sortir une jambe, puis deux. Il se tendit les sabots à la queue vers le morceau de berge, tout juste à sa portée, tirant avec lui la passerelle instable. C'était comme essayer de marcher sur un radeau bricolé à partir de cure-dents ou sur un tas de sucre brûlé ou encore sur rien du tout. Mais Pégase était bel et bien un héros. Ses antérieurs accrochèrent le bord du talus et il réussit à extirper ses postérieurs des bambous qui les emprisonnaient. Seulement, rien n'était encore gagné. Le poids de son corps l'entraînait vers l'arrière. Il était épuisé. La marne argileuse de la rive s'effritait. J'ai cru que c'était fichu. Les éléphants étaient toujours là dans les parages. J'entendais le grand mâle pousser des barrissements en guise d'avertissement. Ces animaux ont une mauvaise vue, mais leur odorat est très développé et ils nous sentaient. Tout en encourageant Pégase de la voix, je m'emparais de la longe côté acacia et plié en deux, je tirai de toutes mes forces en marc-boutant en arrière. Et enfin, ces quatre sabots reposèrent sur la berge. Les lattes avaient fait de longues estafilades sur son ventre et lacéré ses jambes. Nous avions beaucoup de chance, mais n'étions quand même pas encore tirés d'affaire. Les éléphants n'étaient qu'un des périls qui nous guettaient. Pégase dégageait une odeur de sang et nous étions tous les deux fatigués et par conséquent des proies aisément détectables par les prédateurs qui roulaient par là. Il ne nous restait plus qu'à continuer notre route.
Your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said, it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Alors je reprends. Peu à peu, donc, la jeune Beryl Markham s'affirme comme une personnalité non-conformiste, entière, libre et passionnée, énigmatique à souhait, compliquée et rebelle. Tout cela, je l'ai écrit. Et tout ça dans le décor somptueux du Kenya. Pour gagner sa vie, elle devient entraîneur de chevaux de course. Et entraîneur de chevaux de course, en ces temps-là, au Kenya, eh ben pour une femme, c'était pas facile. Ouais. Et donc, petit à petit, le roman avance et se rapproche de plus en plus de la ferme africaine.
Afriksen,
oui, avec Dennis Finch Hatton, dont elle devient l'amant. Ils deviennent amants tous les deux. Et l'aviatrice aura, en même temps, Beryl Markham aura plusieurs aventures et une avec le prince Henri. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, hein, c'est quand même un roman. Mais dans le roman, ils décrivent ça. Et c'est un roman qui devient du coup passionnant.
Qui c'était le prince Henri ?
Le prince Henri d'Angleterre, fille de la reine mère d'Angleterre.
Le fils de la reine d'Angleterre ?
Oui, oui, oui.
Mais ça se passe au début du siècle ?
Ça se passe en 1936, et je rappelle que là, alors là on discute tous les deux, hein, ça c'est en off.
Le prince Henri.
Le prince Henri.
Je prince, sais pas qui
c'est. Ou alors c'est son. Est-ce que c'est carrément son mari ou.
Non, c'était Philippe.
C'était Philippe, son mari, oui. Mais la reine Elisabeth, elle est reine depuis combien de temps ?
1954.
Eh bien, le prince Henri, je suppose que c'était son père, admettons.
Non, c'était Georges, son père. Je sais, je suis pénible.
Bon, bref.
Bon,
eh ben, en tous les cas, c'est un prince de la cour d'Angleterre.
OK.
Vers la fin du roman, quand même, l'aviatrice va apparaître et on va enfin pouvoir parler d'avion. Beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts dans la vie de Tom Campbell Black depuis le jour de notre rencontre au bord de la route à Molo. Il avait acquis l'avion et ses rêves de ses rêves et était devenu le directeur et le premier pilote de la Wilson Airways, une compagnie aérienne flambant neuve dont le siège était à Nairobi et qui transportait des passagers et du courrier. Il avait en outre récemment fait la une des journaux pour avoir volé à la rescousse d'un célèbre as allemand de la Première Guerre mondiale, Ernst Houdet, dont l'appareil s'était écrasé dans le désert. Tom ne fut pas étonné de me voir, ni par la demande que je lui fis. Je souhaitais qu'il me donne des leçons de pilotage. « J'ai toujours su que tu allais voler. C'était écrit dans les étoiles. Je vois. C'est pour ça alors que tu fais des grands discours sur l'aviation, la liberté et les nuages, en prêchant le détachement. À cause de moi ? Évidemment, quoique tu n'aies pas l'air d'un mystique. » Du moment que tu acceptes de me former, répliquai-je en riant, tu peux faire ton mystérieux autant que tu veux. Mes premières leçons commencèrent le matin de bonne heure, au-dessus de Nairobi, paisiblement endormi. L'aérodrome était aussi rudimentaire que l'avait été la ville 30 ans plus tôt, un peu de tôle et de verre et d'espérance posée à bord de nulle part. Tom n'avait jamais eu d'élèves, mais peu importait. Pour piloter, il fallait avant tout se fier à son instinct et à son intuition en tenant compte quand même de quelques règles indispensables, dont cette recommandation. Regarde bien le compas de ton avion. Il t'arrivera parfois de ne plus savoir à quoi te fier. L'horizon, à condition que tu puisses le voir, ne te dira rien du tout. Ce sera un horizon mensonger. Il ne te restera plus que cette aiguille, dit-il en la montrant du doigt d'un geste théâtral. Elle seule t'indiquera la direction à prendre, mais pas où tu te trouves. Tu dois juste la croire et tu finiras par t'y retrouver. L'avion était muni d'une double commande reliée à l'instructeur. J'apprenais à lire les instruments et à sentir le panonnier en comptant sur Tom pour rattraper mes erreurs de pilotage. Au début, nous communiquions par un système d'interphone, mais Tom ne tarda pas à l'abandonner. « Tu dois détecter par toi-même tes fautes, me dit-il. Je pourrais continuer à te corriger, mais ça ne t'apprendra rien. » Il avait raison. La manette des gaz, l'angle du manche, le patin de queue, les volets, les gouvernes, chacun de ces éléments me transmettait des indications que je devais maîtriser. Il m'arrivait d'ailleurs souvent de mal les interpréter. Le MOF devenait brusquement lourd et perdait de l'altitude, plongeant à une vitesse excessive vers la végétation et les pierres blanchies par le soleil, embarqué dans un courant descendant imprévisible à la bord des montagnes. L'hélice se mettait soudain à octer, où la météo a changé d'un seul coup sans crier gare. On risquait alors d'atterrir dans des sensevières qui transformait en charpie le revêtement de la voilure, ou de déraper et de casser le train d'atterrissage, ou encore d'accrocher des racines invisibles, de toucher des mottes de terre, de s'enfoncer dans un nid de poules, de briser les entretoises, ou de ne plus pouvoir décoller, si ce n'est pire. On avait beau s'entraîner au maximum, savoir déchiffrer des signes du danger, on pouvait quand même se planter. « Je veux mon brevet de pilote », déclarai-je à Dennis à son retour de Nairobi. « Je deviendrai la seule aviatrice professionnelle d'Afrique. »
Et le drame survient.
Eh oui, c'est comme ça.
Dennis Finch Hatton.
Je te reprends, Dominique, il faut dire
Dennis. Celui que jouait Robert Redford.
Robert
Redford. Ancien amant de Karen Blixen, devenu le rand amour de notre aviatrice héroïne, se tue en vol.
Eh oui, ce jour-là, elle n'était pas avec lui. On se demande pourquoi, alors qu'ils volaient souvent ensemble. Mais ce jour-là, elle n'était pas
elle
avec lui.
Elle était restée à terre. Ouais. Évidemment, après ce drame, c'est le choc, et toute personne normalement constituée s'empresserait d'abandonner ce sport dangereux, n'est-ce pas, Hervé?
Évidemment.
Mais évidemment, on la
parle
connaît.
D'une personne exceptionnelle. Mon père s'inquiétait pour moi, je le voyais bien. Mais je restais inconsolé jusqu'au jour où un bruit de moteur familier fit vibrer l'air de nos collines. Apparut alors soudainement le mauf de Tom, piquant droit sur la ferme dans un ciel d'un bleu très pur, sans un nuage. Sur notre propre piste d'entraînement, il se posa aussi léger qu'une plume. « Comment ça va ?» me lança-t-il en escaladant l'aile du mauf après avoir coupé le moteur. Comme si comme ça, je me sentis flanché. Je n'avais pas la force de prononcer un mot. Mais je n'eus pas besoin de parler. Tom me tendit un casque d'aviateur et je me coulai dans le cockpit, reconnaissant au vacarme du moteur qui démarrait dans des hoquets, aux vibrations de mon minuscule siège, aux secousses de la carlingue, tandis que nous reprenions de la vitesse. Nous montâmes en rugissant par-dessus les collines, le paysage bascula sur le côté, puis roula au loin en contrebas. Mon esprit peu à peu s'éclaircit pour la première fois depuis des semaines. Un air froid me soufflait à la figure et remplissait mes poumons. C'était tellement plus facile de respirer là-haut. Même avec le fracas constant de l'hélice et du vent, il régnait une impression de calme, cette paix à laquelle j'avais en vain aspiré. Je me rappelais le jour où un petit indigène m'avait demandé si on voyait Dieu quand on faisait de l'avion. Tom avait été là, nous avions ri et secoué la tête. « Tu devrais peut-être aller encore plus haut alors », avait dit l'enfant.
Eh bien, merci Hervé. Merci de nous avoir raconté la vie d'une femme au destin exceptionnel. Tu peux nous rappeler le titre de cette biographie ?
Exactement, ça s'appelle « L'aviatrice » de Paula MacLean. C'est paru aux Presses de la Cité en 2015.
Bien, mais notre émission touche à sa fin. Je rappelle que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, que ceux-ci sont de plus en plus bafoués à travers le monde, notamment actuellement en Afghanistan. Et dans bien d'autres endroits aussi d'ailleurs. Ces droits et d'autres que nous croyons immuables dans notre pays ne sont jamais acquis et il faut perpétuellement lutter pour les maintenir.
Exactement.
Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Hervé, le titre est-il déjà choisi ?
Je savais que tu allais me poser la question et la réponse est
non.
Non.
Je le savais. Bien. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.